France Culture. Alexis Lacroix, on ne pouvait pas trouver meilleure musique peut-être pour introduire Guerre secrète. Guerre secrète de Philippe Solers qui vient de paraître aux éditions Carnet Nord. Peut-être quelques mots d'abord sur Carnet Nord qui est une nouvelle maison d'édition.
Oui, qui était a priori spécialisée dans l'édition de DVD, puis qui maintenant se lance dans la publication de livres sous la houlette de Benoît Chantre, hein, qui est le responsable éditorial de cette maison.
Dont on ne dira jamais assez de bien.
Ah oui, absolument. Oui, excellent écrivain. Et qui donc la publie, le premier livre, si j'ose dire, martial. C'est quand même pas une marche militaire non plus, mais pour ceux qui auraient pu penser que Philippe Solers se laissait aller à une forme de dolce vita, d'insouciance peut-être liée à sa conversion tardive, à une forme de papisme larvé, eh bien, il faut qu'il se détrompe. Philippe Solers n'a pas déposé les armes, Joseph Massescaron. Il continue.
C'est pas le genre de personne à tendre la joue droite après avoir eu la joue gifler, de toute façon.
Probablement, voilà. Et il continue, si vous voulez, il continue son offensive. Il continue à être sur le qui-vive et à être dans une position de vigilance absolue. Selon lui, évidemment, le nouveau mal du temps qu'il faut combattre, c'est le nihilisme. Après Heidegger, après Léo Strauss, en voilà un qui nous dit que le nihilisme, au fond, est ce qui nous menace, ce qui menace d'engloutir notre civilisation, de ravager notre planète. Et Philippe Solers se propose, au travers d'une exploration, si vous voulez, d'une sorte d'histoire comparée de la guerre dans la civilisation occidentale, au travers de textes évidemment dont il est un lecteur familier et assidu, de retracer justement cet oubli progressif du caractère civilisateur de la guerre, parce qu'en fait lui, fondamentalement, c'est ce à quoi il croit, il part de là, hein, il part de cette idée qu'il y a eu longtemps dans l'histoire de l'Occident un caractère civilisateur de la guerre qui est oublié aujourd'hui, et il entrelace avec un certain bonheur d'écriture, une forme de désinvolture qu'on lui connaît, qu'on aime d'ailleurs ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas c'est la marque de fabrique Solers, il entrelace ses considérations stratégiques avec des considérations érotiques et littéraires, un zeste bien sûr de narcissisme inévitable dans ce type de livre, mais aussi, il faut bien dire, le brio d'une écriture qui s'est passée d'un registre à l'autre, entrelacer le mythe d'Ulysse et celui de Dionysos, et puis peut-être aussi comparer, j'allais dire, l'éthos occidental de la guerre avec celui des Chinois. On le sait, Solers est aussi, si vous voulez, une sorte d'artificier des guerres de mouvement. C'est quelqu'un qui est capable, tel un épervier, de se jeter brutalement sur une cible. Il connaît les guerres d'opposition. Il aime aussi beaucoup cette forme de mondanité éveillée. Et il essaye de mettre ça en scène, encore une fois, avec cette espèce de brio un peu désinvolte, cet art de la guerre solercien. Alors on peut recommander, de ce point de vue-là, la lecture des guerres secrètes, qui constitue sans doute une partie de cette espèce de construction en archipel d'un testament spirituel. Bon, il se trouve que ces guerres secrètes paraissent au même moment que les mémoires de Philippe Solers, intitulé Un vrai roman. On ne peut donc pas tout à fait lire on ne peut donc pas tout à fait lire un texte sans l'autre. Et puis il y a, si vous voulez, dans les guerres secrètes, on y reviendra sans doute, ce dernier chapitre finalement assez étonnant de la part de celui on associe si souvent au libertinage français, avec peut-être aussi ses limites, ce chapitre consacré à une grande figure de la spiritualité catholique, qui était par ailleurs aussi initié au mystère de la maçonnerie, qui était Joseph de Maistre. Et là, peut-être se révèle, c'est une hypothèse de lecture, hein, mais tout le pan conservateur de Solers, conservateur évidemment au meilleur sens du terme, d'un homme qui sait aussi qu'une civilisation repose sur un certain nombre de principes, et que si ces principes sont bafoués, eh bien c'est la porte ouverte à la barbarie. Hypothèse que je vous livre ici, Guerre secrète n'est pas un livre simplement de mise en scène narcissique de sa propre capacité justement à mener des guerres de position. Mise en scène n'est pas non plus une réflexion sur le nihilisme, comme l'annonce pourtant à la fois l'éditeur, la quatrième de couverture, et Philippe Solers lui-même. C'est surtout, je crois, ultimement une réflexion sur la façon dont on pourrait aujourd'hui faire échec à la barbarie qui nous menace.
Cécile Gilbert.
Je ne suis pas totalement d'accord avec la façon dont Alexis Lacroix présente ce livre, car certes, il est question de guerre évidemment et de guerre secrète, mais il est surtout question du Dieu et de ce qu'il en est, de ce qu'on appelle la décomposition du monothéisme, le retour du Dieu, la Grèce. Alors, c'est pas un livre qu'il faut rattacher à la guerre du goût. C'est un livre qu'il faut rattacher, en fait, dans l'œuvre de Solers. Vous me direz, c'est depuis le début, mais ça a pris une inflexion récente, nouvelle. Car contrairement à ce que dit Alexis Lacroix, le nihilisme n'est pas une menace. Mais il est achevé, il est là, achevé. Donc c'est plus quelque chose qui nous menace, c'est quelque chose qui est là. Donc je pense que c'est plutôt un livre qui se rapporte à la Divine Comédie, qui était justement les entretiens de Philippe Solers avec Benoît Chantre, aux Illuminations, qui était un livre qu'avait fait paraître Solers, et surtout à Une vie divine, qui était son grand roman, paru l'année dernière, concernant Nietzsche. Parce que le nihilisme étant plus une menace, mais étant évidemment littéralement achevé, Solers se penche maintenant sur tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'ouverture par rapport à ça. Et l'ouverture, elle doit évidemment prendre en compte ce qui a été refoulé. Et ce qui a été refoulé, c'est la Grèce. Je veux dire, la majeure partie de ce livre est une interprétation assez serrée d'Ulysse, du héros qui est en guerre contre tous secrètement avec l'appui d'une déesse qui s'appelle Athéna. On a une analyse aussi assez serrée du prétendant. On a un chapitre sur Dionysos qui est le dernier dieu et qui évidemment ressurgira de façon très très précise et passionnante dans la vie de Nietzsche, Nietzsche qui fait ressurgir à la fois Dionysos et le crucifié. Donc ce qui est intéressant et passionnant, alors là je suis assez contente que Alexis Lacroix ait choisi ce livre qui est publié dans la Différence Générale, vu que tout le monde est complètement omnibulé par les mémoires de Solers qui paraissent parallèlement, car là, avec les mémoires, tout le monde s'obsède sur le personnage sociologique et médiatique.
Absolument.
Avec là, nous rentrons vraiment dans le cerveau, pas d'Athéna, mais de Solers, qui ne mène pas du tout, pardon Alexis Lacroix, un exercice d'histoire comparée, mais qui mène ce que Heidegger appelait une pensée historiale, c'est-à-dire je pense qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui est capable de penser simultanément comment le grec s'est déployé dans le français avec Rimbaud, Le Tréhamon, voire Bossuet et Joseph de Maistre. Pourquoi certains catholiques voulant dire universel, il ne s'agit pas de défendre des principes contre une barbarie, mais vraiment de voir ce qu'il en est de l'universel aujourd'hui, effectivement, est défendu par Joseph de Maistre, non de façon réactionnaire et conservatrice, mais par rapport à l'affaissement du protestant. C'est très complexe, je veux dire, c'est un livre, quand même, qui peut pas, comme ça, être analysé aussi vite et dans le temps qui nous est imparti. Car, si Solers ne parle pas du christianisme en tant que religion, ou en parle, mais si vous voulez, sur son versant doloriste décomposé, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il appelle la révolution catholique baroque, ce qu'on a appelé longtemps la contre-réforme et qu'il appelle la révolution catholique, en nous montrant que seuls certains catholiques sont en prise avec la Grèce, avec le Dieu, avec le Christ, et donc on retrouve le Christ. Enfin, tout ça est une Hölderlin protestant, Nietzsche protestant. Pourquoi ces protestants-là sont ceux qui ont fait retour sur le grec et pas les autres? Voyez l'ampleur de la médiation. J'ajoute un point. C'est qu'il pense aussi une chose, moi que je trouve passionnante personnellement, parce que je m'intéresse aussi pas mal à la Chine, c'est qu'il nous rappelle quand même que Sun Tse, le grand stratège chinois, a vécu entre Homère et Euripide, qui a failli avoir une jonction entre le monde chinois et le monde baroque, au XVIIe siècle, grâce aux jésuites. Alors on pensait bien évidemment les jésuites, les catholiques, la Chine, tout ça crée un nœud.
Un univers
et un nœud de pensée, si vous voulez, dans lequel Solers s'ébat merveilleusement. Alors parfois il va très vite, c'est vrai qu'on pourrait dire que son commentaire des Bacchantes d'Euripide est parfois un peu olé-olé, un peu bâclé, mais bon, si on s'intéresse vraiment à ces questions, je trouve qu'on n'a pas fini de méditer ce livre, et d'ailleurs ça donne envie d'aller relire évidemment Homère, les Bacchantes, les stratèges chinois et Joseph de Maistre.
Frédéric Fernet.
Comment lire Solers sans être épaté, attendri, agacé, intrigué par son intelligence, sa culture, ses stratégies de séduction, sa santé, sa rouerie, sa légèreté, sa naïveté, parfois beaucoup plus grande. Enfin, moi, ça m'a toujours fasciné les zones de naïveté chez les cyniques, entre guillemets. Je crois que c'est un mot qui revendique. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est finalement plus un roman que celui qui passe pour en être un, sous le titre Un vrai roman, et qui sont des mémoires. Et c'est vrai que c'est un roman de la pensée. Je veux dire, en ça, Solers se situe dans la lignée française. On a du mal à imaginer un écrivain qui ne pense pas et un penseur qui ne serait pas écrivain. Il y a dans ce livre tous les faibles et toutes les faiblesses de Solers. Il y a son système paranoïaque. Si vous me critiquez, c'est que j'ai raison. Il y a ses bravades, il y a son opportunisme, il y a ses allégeances à la papauté, que ce soit Jean-Paul II ou Mao Tse-Tung, qui quelque part, moi, ses fidélités m'effraient plus que ses renoncements ou ses palinodies. Là où, comme toujours, on peut être tenté de de sourire ou même de s'esclaffer, c'est une question de tempérament, c'est quand il se présente quand même en maudit, en banni, en marginal, alors que c'est un chouchou des médias, faut quand même choisir, c'est quand même un people comme les autres, même quand il pense, dans ce livre, là. Quand il cède à cette manie insupportable, c'est encore plus vrai dans ses mémoires, cette manie insupportable de se citer lui-même comme s'il était si peu lu ou si mal lu, quand il se congratule et quand il se compare, quand il dit Paradis est le plus grand poème du XXe siècle, comme si Ezra Pound, T.S. Eliot ou Aragon étaient des vers de terre. Quand il se compare au plus grand, là, moi, je décroche complètement. Il reste que, c'est ça qui me touche dans ce livre, que c'est sans doute l'un des auteurs les plus secrets. L'adjectif secret qui est dans le titre. Leste le livre à des niveaux presque insondables. C'est l'un des auteurs les plus secrets, les plus verrouillés que je connaisse. C'est-à-dire, je crois que profondément, Solaire, c'est quelqu'un qui se tait sur l'essentiel, sur quelque chose qui est là et qui l'a au bout des lèvres et qu'il ne dit pas, qu'il ne peut pas dire. Il préfère passer pour un clown ou un acrobate de hilar. Acrobate de la pensée, mais acrobate quand même, plutôt que de s'exposer, de se déceler. Et je trouve que c'est quand même dommage, quand on est si doué, de n'être que le scapin ou le trivelin des lettres françaises. Pour moi, Solaire, ça pose la question quand même, qu'on le veuille ou non, ce livre comme les autres, même s'il est évidemment plus lourd, plus on ne peut pas ne pas le prendre plus au sérieux que les autres, ça pose comme la question du succès. Est-ce que c'est une grâce ou une malédiction? Et je crois qu'il faut quand même accepter ce que Solaire n'accepte pas. Il faut quand même accepter, à un moment donné, d'être un raté, sauf dans le domaine qui vous importe, à savoir la littérature, pour être Proust ou Cézanne, qui sont quand même ces deux grands dieux. Et je crois que Solaire n'est pas prêt à payer ce prix-là. Ce qui, moi, m'importe, c'est que c'est un écrivain du littéraire, c'est un écrivain littéraire et c'est un écrivain du littéraire. Et je pense que la place de Solaire, c'est le Collège de France. Il devrait avoir une chaire de la pensée littéraire ou du littéraire. Je ne sais pas comment on pourrait trouver un intitulé. Je crois qu'il serait un des seuls à pouvoir la tenir. C'est-à-dire approfondir un petit peu le journaliste qu'il reste quand même encore un petit peu dans ce livre, parce que le livre a quand même été fait un peu vite. Hein. C'est vrai que sur les bacchantes, il n'y a pas que sur les bacchantes que parfois on dit bon là, ça mériterait un petit peu plus de précision.
Claire Dupont-Monod.
Ah, écoutez, moi, je trouvais ça passionnant. Indépendamment du personnage de Solaire, indépendamment des agacements qu'il peut susciter, j'ai trouvé ça absolument passionnant parce que moi je l'ai vraiment lu comme un livre sur les charnières de l'histoire. Et ce que j'aime beaucoup chez Philippe Solaire, c'est que en passant, il égrène comme ça un certain nombre de petites bombes. Il adore torpiller les idées reçues, mais en passant toujours. Hein, c'est et ça j'aime beaucoup, notamment quand il rappelle que les femmes ont été incroyablement impliquées dans la guerre et c'est un fait que l'on persiste quand même globalement à ignorer. Il le rappelle aussi. Ou par exemple quand il dit quand même en filigrane que les servitudes volontaires sont peut-être les conséquences les plus graves et les plus néfastes engendrées par la guerre, bien plus finalement que l'invasion ennemie. Il y a toute une réflexion comme ça derrière le texte. Alors, mention spéciale aux pages, vous l'avez dit Alexis Lacroix, consacrée à Joseph de Maistre. D'abord par le style. Moi, je suis désolée, mais quelqu'un qui écrit « Joseph de Maistre, point, plus maudit, virgule, tu meurs, point », moi, j'adore. Voilà. Ça, c'est déjà ça, quand même. Il y a effectivement la désinvolture dont vous parliez, mais qui est ici, qui a tout à fait sa place. Et puis, je trouve qu'il a une façon de raconter, d'expliquer le parti pris de Joseph de Maistre, adepte du rienisme, préfigurant le nihilisme, et puis persuadé que le christianisme contenait en son sein son propre poison, à savoir le protestantisme, vaste débat. Alors après, pour ce qui est effectivement, Solaire, qui cite ses propres romans, bien sûr que c'est énervant, mais en même temps c'est très séduisant parce que ça ne se fait pas. De la même façon, il y a un moment dans le livre où il parle de la couverture de ce livre-là, justement. Et ça ne se fait, bien sûr, ça ne se fait pas. Et au fond, tout est dans une phrase à propos de Dionysos, comme ça, il dit « La seule manière d'arriver au soir sans avoir souffert, c'est d'être personne et tous en même temps, de ne jamais être où le social vous assigne une place. » Et bien voilà, c'est lui.
Oui. Cécile Guilbert, est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation de Clara Dupont-Monod?
D'abord, Clara, oui, pas du tout de Frédéric Fernet.
D'accord, donc d'abord Clara, le refus d'être à résidence. d'être assigné à résidence.
Évidemment, mais on dit que ça agace qu'il cite ses livres, mais comme l'a très bien écrit Nietzsche, Jean Ecce Homo, vous savez, dans Ecce Homo, il y a un chapitre de Nietzsche qui s'appelle « Pourquoi je suis si bon ?» Et d'ailleurs, je crois que c'est bien dans la théorie des exceptions de Philippe Sonner, qui a un auto-commentaire de lui-même. C'est qu'il a bien raison de faire le boulot lui-même, puisqu'on veut pas le faire. Tout le monde est complètement omnubilé par sa personnalité médiatique, ses revirements qu'on appelle de frégolie, etc. Mais enfin, si vous prenez toute son œuvre du début à la fin, il y a une cohérence absolument énorme. Et quand vous voyez l'accentuation que prend cette pente de pensée depuis la Divine Comédie, les Illuminations, Une Vie Divine, il creuse un sillon que personne ne voit, tout le monde s'en fout. Mais en fait, il faut dire la chose, c'est que ça n'intéresse pas grand monde. Et c'est normal que ça n'intéresse pas grand monde. Qu'est-ce que les gens ont à faire entre la jonction, de la Grèce antique et de la Chine de Sun Tse aujourd'hui? C'est normal que ça n'intéresse pas grand monde.
Sauf Cécile Guilbert, si on leur dit ce que vous avez peut-être un peu sous-estimé dans votre propre lecture, hein, si on leur dit que au-delà de la thèse heideggerienne de l'oubli qu'il faudrait déceler, etc., et à laquelle il s'appelle.
Il cite à peine Heidegger,
Et c'est vous qui avez fait référence à Heidegger.
Je
pas
parle
moi.
De l'historial.
Mais au-delà de la thèse historiale de l'oubli qu'il faudrait déceler en revenant aux anciens, évidemment qu'il y a ça. Mais si on leur dit, et je crois qu'il faut le dire à nos auditeurs, qu'en réalité c'est un texte, comme l'a dit Clara Dupont-Mono, sur la liberté et sur la façon dont la liberté, à chaque époque de l'histoire, à chaque charnière de l'histoire, Clara Dupont-Mono, est menacée effectivement par la tentation de la servitude volontaire. Et le vrai sens, l'ultime sens qui apparaît sans doute ces jours-ci de l'œuvre de Solers, c'est une sorte de combat pour la liberté, avec évidemment toutes les limites, sans doute, de désinvolture qu'on lui connaît.
Mais oui, vous avez raison de dire que c'est quelque chose sur la liberté, parce que la liberté est toujours en jeu, mais ce n'est pas assez dire que de dire ça. Car ce qui est magistralement montré dans ce livre, et ça je trouve que c'est très charitable, parce qu'il ne faudrait pas oublier de dire que la pensée est toujours charitable. Toujours. Parce qu'elle vous essaye de vous éclairer, elle essaye de vous montrer autre chose. C'est que le blocage érotique, le blocage du langage, le blocage par rapport au Dieu, si vous voulez, dès qu'il est refoulé, débouche sur le massacre. C'est ça que nous montre Sonner. Donc il y a évidemment la guerre des sexes, il y a les femmes, il y a les ménades. Tout ça ne date pas évidemment de Joyce Carol Oates et des femelles. Et il essaye comme ça de nouer et de réfléchir sur une très très longue longueur de temps pour essayer un peu de nous ouvrir les yeux. Donc ça, c'est charitable et je pense qu'il faut le remercier.
Donc ouvrons les yeux et lisons Guerre secrète de Philippe Solers, qui vient de paraître au Carnet Nord. Vous êtes sur France Culture.